des souris et des lettres.
Et oui, avec une élève comme Adeline, je n'aurais guère de mérite à proposer des titres de romans, d'essais, de pièces de théâtre, car je sais que je parviendrai à piquer sa curiosité, quitte parfois à être contesté dans mes choix. Et je ne m'en plaindrai même pas, car c'est précisément ce dialogue critique que nous souhaiterions entretenir avec nos élèves à partir des œuvres que nous leur proposons. C'est alors que les deux provocateurs du groupe veulent s'emparer du micro. « Allons Serge, tes élèves ne lisent pas comme toi », me glissent-ils à l'oreille d'un air moqueur. « Mais s'ils ne lisent pas comme moi, que lisent-ils? Comment lisent-ils? Comment puis-je adapter mes pratiques de professeur sans renoncer à des attentes ou des valeurs que je juge essentielles ?» Et là, vous ne pourrez pas échapper à ces questions et à bien d'autres auxquelles vous allez devoir répondre, Baptiste et Marie. Car je vous laisse maintenant la parole dans la rubrique intitulée « Le sujet du jour ».
Merci Serge. Alors avec Baptiste, la première question que nous nous sommes posées, c'est « Qu'est-ce qu'un bon lecteur pour nous enseignants de français ?» Alors je suis partie de constat tout simplement et en fait il m'a semblé que pour l'enseignant un bon lecteur c'est un élève qui lit toutes sortes d'œuvres, qui lit en grande quantité et qui comprend le texte et en découvre l'implicite. Alors finalement à bien y réfléchir, j'ai eu le sentiment qu'on essaie de faire de nos élèves des lecteurs qui nous ressemblent. Qu'est-ce que tu en penses toi Baptiste ?
Effectivement, et moi je me suis posé la question un tout petit peu différemment, je me suis demandé si moi-même j'étais un bon lecteur à leur âge. Est-ce que je correspondais à l'image que j'en ai maintenant ? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Et en tout cas, c'était certainement pas tout le temps le cas. En fait, est-ce qu'on a une idée si objective du lecteur que nous étions ? Et à quel lecteur d'aujourd'hui nous comparons-nous finalement ? Ils sont peut-être moins différents de nous qu'il n'y paraît. Et c'est des informations que nous rappelle Philippe Coulangeon, sociologue. Notamment en rappelant que les adultes ont toujours ressenti une panique et une nostalgie face à la lecture des adolescents. La baisse du niveau scolaire, effectivement, elle est clamée depuis 1870. Mais il faut relativiser évidemment cette nostalgie et cette panique, puisque l'école a beaucoup changé, tout le monde n'allait pas à l'école, et puis les nouveaux médias ont toujours créé ce genre d'inquiétude, qu'il s'agisse de la radio à ses débuts, la télévision, et puis aujourd'hui donc effectivement Internet, pour lequel on entend toutes sortes de qualificatifs, hein, machine à décerveler, poubelle du monde, etc. Donc peut-être qu'il s'agit moins d'un déclin particulier de la lecture des jeunes, plus d'une impression, une impression qui finalement est liée à une différence de génération. Et le problème, s'il existe, vient peut-être plus d'un certain resserrement des types de lectures romanesques, accompagné, il est vrai, d'un éclatement des lectures autres, que notre culture de lecteur devenue expert aujourd'hui n'a jamais vraiment considéré comme de la lecture vraie.
Oui, tu as raison. Alors je me suis penchée sur ce que lisent nos élèves et sur la manière dont ils lisent. Alors la lecture, en fait, comme beaucoup d'activités, évolue au fil des modes et j'ai trouvé un article de l'Express où Isabelle Lortolari explique, je la cite, que les adolescents lisent pour appartenir à une tribu. L'identité de l'auteur est très peu repérée. Ce qu'il est, en fait, elle explique que c'est le genre et la collection. Donc, quand les adolescents découvrent un premier tome qui leur plaît, ils achètent et consomment la série sans aller voir ailleurs. En ce moment, la mode, c'est une littérature de genre très codée, fantastique ou fantasy à 95%. Alors je me suis aperçue également que le mode de lecture a changé. La génération d'élèves actuels lit autrement. Et avec Internet, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, s'est développée la lecture hypertextuelle. On passe donc d'une page à l'autre, d'un paragraphe à l'autre. Et ce n'est plus la lecture linéaire telle que nous, on l'a connue, c'est-à-dire du début à la fin.
Alors je crois qu'effectivement, je reviens sur ce que tu dis, il ne faut pas se voiler la face. Les écrans font changer la lecture. Et de façon profonde et peut-être même préoccupante, en tout cas, il faut s'y pencher. L'acte même de lire se modifie et semble avoir un impact sur la mémorisation et sur l'apprentissage. Je me suis intéressé notamment aux conférences de Thierry Bacchino, qui est professeur de psychologie cognitive des technologies numériques. Et il met en avant des modifications liées à la lecture sur écran qui m'ont semblé vraiment intéressantes. Alors certes, on reprend des choses qu'on connaissait déjà ou qu'on imaginait. Par exemple, le problème de la lumière liée au rétroéclairage qui abîmerait, enfin qui fatigue, qui provoque une fatigue visuelle importante. Mais également le mode de présentation sur écran qui est dynamique et qui n'est plus statique par rapport au mode de présentation sur une page. Le type de lecture qui passe du linéaire au non linéaire sur écran. Et effectivement également la différence entre les sources d'informations qui sont extrêmement redondantes et répétitives sur un écran. En fait, pour aller vite sur écran, la prise d'information visuelle, elle est dégradée. Alors ça, c'est prouvé scientifiquement. Et elle est multipliée également, le temps est multiplié par 25%, parce qu'il y a plus de fixation nécessaire pour arriver à lire une même page. Le défilement, donc le scrolling, pose également certains problèmes. Ce défilement vertical empêche le lecteur de se fixer dans l'espace. La mémoire spatiale des mots est perturbée et donc la lecture est également moins efficace, en tout cas la lecture telle que nous l'entendons, lecture longue, lecture romanesque. L'organisation des informations, le problème du tri des informations, tout cela est extrêmement complexifié sur un écran, alors qu'il faut quand même rappeler que notre cerveau n'a pas évolué du point de vue de la ségrégation visuelle depuis 3500 ans. Notre cerveau n'a pas évolué, donc les modes de lecture qui lui sont proposés sont de plus en plus compliqués. Un contenu avec hypertexte, on le sait, n'est utile que si on connaît déjà le sujet. Si on ne connaît pas le sujet, on s'y perd. On perd le fil. Le problème est lié à une désorientation donc cognitive ou une surcharge cognitive. Et sur le web, la lecture devient plus un écrémage qui, voilà, c'est de la recherche d'informations. Le développement de stratégies de lecture sélective est supérieur à des stratégies plus profondes de lecture attentive telles qu'on les attendrait. Et puis, plus inquiétant et plus surprenant pour moi, en tout cas, il y a vraiment une modification cérébrale. Le fonctionnement du cerveau est différent lorsqu'on lit sur un écran. Les activations des zones cérébrales ne sont pas les mêmes. C'est la zone frontale qui est activée, celle de la prise de décision sur écran, alors que ce n'est pas le cas sur une lecture papier. Voilà. Dernier élément intéressant, me semble-t-il, c'est le fait qu'Internet remplace la mémoire du lecteur. Que ce soit un lecteur de roman ou un lecteur même d'informations autres, le lecteur aujourd'hui sait où trouver l'information, mais il ne sait pas finalement quelle est l'information. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est dans cette voie-là que les études de Thierry Bacchino m'ont porté à voir les choses. Donc pour conclure, hein, il y a une grande variabilité des comportements de lecture, ça c'est certain, elle a toujours existé, mais sur les écrans, elle est accentuée, clairement accentuée cette variabilité des comportements, et donc les difficultés sont accentuées également. Ces études tendent à prouver que le changement de support utilisé pour la lecture a pour conséquence une mutation de la lecture elle-même, qui, si elle n'est pas inférieure à la nôtre en termes de quantité, laisse entrevoir une baisse de l'autonomie du lecteur et de son efficacité. La lecture devient fragmentée, procède par prélèvement, rompt avec la tradition élitiste de la lecture savante, immersive et solitaire, et signe peut-être l'avènement de la lecture sociale qui serait pratiquée en réseau, en partage. Et nous, notre problème d'enseignant, finalement, ça devient alors comment les amener à goûter la lecture telle que nous l'entendons. Comment les guider vers ce moment unique, finalement, ce spectacle, d'autant plus extraordinaire qu'il est exclusivement réservé à n'importe qui. Je m'emballe un peu, mais il y a quand même un peu de ça.
Oui, donc en fait, je crois que s'installe une différence entre ce qu'ils lisent, la manière dont ils lisent et ce que sont nos attentes. Qui n'a effectivement jamais entendu à l'annonce d'une lecture imposée « Madame, combien il y a de pages ? Il va falloir tout lire ?» « Oh, c'est nul, j'aime pas lire. » Alors, tout de suite, l'activité lire pose un problème. Comment réussir à amener les élèves à entrer dans l'œuvre avec envie, plaisir, et non contrainte et résignation. L'enseignant doit aiguiller les élèves, les guider pour redécouvrir ou découvrir le goût de lire, et sonder un texte comme s'il s'agissait d'une enquête. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert un logiciel qui s'appelle IdeoGraphics, qui m'a semblé un outil intéressant pour accompagner les élèves dans la découverte du texte. Effectivement, ce logiciel permet à l'enseignant de travailler sur le texte qu'il a choisi. Il a donc la possibilité de le décomposer, de le visualiser, de rechercher et faire ressortir les éléments significatifs, alors qu'ils soient de nature sémantique, de nature syntaxique ou morphologique. Et ensuite, il peut proposer un ensemble d'exercices d'entraînement afin de systématiser les apprentissages et les mettre au service de comportements de lecture individualisés. Alors à ce sujet, dans un article des Cahiers pédagogiques, Béatrice Coutelet, Jérôme Dinet et Jean-François Rouet se sont intéressés à l'approche cognitive de la lecture finalisée à l'école et au collège. Et voici leurs conclusions. Alors déjà, il rappelle le discours majoritaire des enseignants. Je les cite. « De plus en plus d'élèves ont des difficultés à comprendre ce qu'ils lisent. » Alors voici leur conclusion. La plupart ne sont pas à proprement parler de mauvais lecteurs, mais leurs difficultés viennent des exigences de plus en plus fortes des situations de lecture qui leur sont proposées. Plus précisément, la lecture finalisée, typique de l'enseignement secondaire, fait appel à des stratégies de lecture particulières que beaucoup d'élèves ne possèdent pas encore à l'entrée au collège. Alors ainsi, il apparaît nettement que si l'enseignant veut réussir à redonner le goût de lire et lever l'obstacle de la lecture, il doit aménager des séquences pédagogiques qui soient consacrées à la compétence « comprendre », sans aucun autre enjeu. Il est possible d'instaurer des exercices simples, mais répétitifs, qui demandent à l'élève de se concentrer sur la compréhension du sens à partir de textes familiers, par exemple, pour ne pas surcharger la difficulté. Le professeur peut, par exemple, instaurer une démarche répétitive à chaque fois qu'il abordera un nouveau texte. Donc, en même temps que les élèves le découvrent sur papier, le texte peut être projeté au tableau, un exercice simple peut être mis en place, identifié au moyen de couleurs fixées dès le début de l'année. Par exemple, si on a un TBI, on peut utiliser le surlignage, les éléments clés de l'extrait. Ainsi, en même temps que les élèves font la démarche de découvrir le texte, la lecture analytique va se mettre en place au tableau.
Oui, c'est vrai, et ce que tu montres permet de donner du sens au texte classique en particulier, mais la tâche est rude, car on peut que constater cet essor des lectures dites utiles au détriment, comme on le disait tout à l'heure, des humanités classiques, autrefois portées par l'institution et l'école. Ce phénomène, le sociologue Bernard Lahire le qualifie de perte de foi artistique et littéraire. Les mutations donc, qu'on observe semblent si profondes qu'elles touchent aussi la lecture plaisir, pas seulement la lecture scolaire. Selon Jean-Charles Fitoussi, qui est éditeur numérique, qui développe notamment des textes qu'on peut lire sur téléphone mobile, le livre est aujourd'hui dilué dans un monde de fiction, mais des fictions très puissantes, souvent globalisées, qui investissent différents médias, comme les films, les séries, les jeux vidéo, et sur différents supports, et également dans différents univers. Les adolescents pratiquent ces fictions sous un nombre croissant de formes et de dimensions. C'est vraiment quelque chose de presque impalpable et qui sous-tend leur vie imaginaire. Dans ce contexte, qu'en est-il de la lecture, finalement, comme accès au récit ? Comment la lecture se coûte-t-elle aujourd'hui à d'autres pratiques dans l'univers adolescent et quels repères culturels se construisent ? Eh bien, l'une des réponses qui peut être envisagée, c'est peut-être le roman interactif, qui constitue une évolution possible. Il est conçu spécifiquement pour le numérique. Par exemple, il existe un des premiers romans interactifs qui est géolocalisé. Il est paru en 2012 et se passe à Paris et permet au lecteur, lorsqu'il se trouve au même endroit que l'action du livre qu'il est en train de lire, d'atteindre des détails supplémentaires sur l'histoire, de choisir la suite qu'il veut lire. Ça rappelle un peu les livres dont vous êtes le héros, hein, qui sont effectivement peut-être plus du domaine du jeu que du domaine littéraire. D'autres exemples sont commercialisés. Le lecteur doit par exemple trouver le lien sur la page pour pouvoir passer à la suivante. Le texte peut être accompagné d'une bande sonore. L'auteur inclut éventuellement dans son livre des musiques accompagnant le texte, des illustrations animées. Ce qui compte alors semble être plus la fiction que le texte. Et peut-être touchons-nous ici à des exemples finalement de surcharge cognitive tels que nous l'évoquions tout à l'heure. Et puis surtout, s'agit-il du même type d'univers fictionnel que celui qui était construit uniquement par les mots? Sans doute pas. Mais notre rôle d'enseignant de lettres s'enrichit, j'en suis certain, certainement plus qu'il se perd dans ses usages multiples et changeants de l'écrit.
Les souris et les lettres.